Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 548 du podcast Touch en Actuel. Un Mathé, très heureux de vous retrouver pour débriefer la 12e semaine de NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Raphaël, deuxième jour de suite, je vais pas trop demander
ouais.
comment ça va, comment la semaine 12 s'est passée, etc. Je pense qu'on va, revenir en long, en large et en travers dessus.
Tout à fait.
Bon. On peut le dire, on en a discuté un petit peu en antenne. On vit des jours difficiles tous les deux, que ce soit en pronostic ou en fantasy. Alors pronostic, moi ça va un peu mieux, tu me diras. Mais bon, on va se redonner le moral en discutant de tout ça, en débriefant tout ça, exorcisons nos démons. Des favoris qui ont gagné facilement, c'est pas si courant que ça cette année en NFL, on va en parler. On va aussi parler de la course aux playoffs qui se rapproche doucement. D'ailleurs, on en parlera dans l'émission preview, mais il y a deux équipes qui peuvent déjà gratter une place en playoffs en semaine 13. On vous dira ça dans l'émission de jeudi avec Victor. En attendant, on débrief ce qui s'est passé dans la semaine 12.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Bears 10, Jets 31, Zach Wilson remplacé par Mike White. Et c'est un euphémisme, Raphaël, de dire que ça a payé. Mike White est à 22 sur 28, 315 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Alors oui, les Bears sont faibles. Oui, ils ont perdu leur meilleur joueur même pendant la saison, avant la date limite des transferts. Robert Quinn et Roquan Smith sont partis. Mais quand même, quelle sortie de Mike White, Raphaël, ça change tout.
Ça change beaucoup. Au-delà effectivement du côté adversité, ce qui change principalement, c'est ce que donne le quarterback, j'ai envie de dire, comme on dit, au centre, enfin derrière sa ligne. On a souvent dit cette saison qu'on voyait un Zach Wilson parfois hésitant dans la prise de décision, ou alors juste ne pas prendre la bonne décision, un peu perdu, ne pas savoir quoi faire du ballon, pas très doué dans ses lectures, etc. Là, on a eu l'impression de l'inverse, d'avoir un Mike White qui savait ce qu'il devait faire, qui jouait avec assurance et voilà, on a juste eu l'impression de voir un quarterback plus réfléchi, j'ai envie de dire, et ça se sent aussi parce que t'as un Garrett Wilson qui est pas loin de faire son meilleur match de la saison, t'as Elijah Moore qui revient d'entre les morts alors qu'on l'avait pas vu qui avait clairement des soucis avec Zach Wilson. Alors bien sûr, Elijah Moore fait que 3 réceptions de mémoire, mais enfin, il revient d'un peu loin, il y a ce touchdown qu'il marque. Bon, voilà, on a eu le sentiment que c'était un quarterback plus près, en fait, finalement, derrière sa ligne, et pas un jeune quarterback perdu.
Ouais, ça fait déjà quand même une sacrée différence. Tu dis ça comme si c'était un tout petit détail, mais
non,
ça
non,
fait une sacrée différence bien. D'avoir un mec qui sait
oui,
faire le travail,
bien sûr,
quoi.
Bien sûr.
Donc, parce que ça fait quand même qu'ils mettent 31 points, qu'ils gagnent facilement. Pour indication, donc j'ai dit 315 yards pour Mike White. Wilson n'a qu'un seul match à plus de 300 yards en carrière, en 20 matchs. Alors que White arrive, il redonne vie à l'attaque. White, il a lancé au moins 3 touchdowns sur 2 des 4 matchs qu'il a joué. Alors évidemment, c'est un petit échantillon. Mais il est quand même vraiment, vraiment compétent quoi, sur ce qu'il a montré. Il marque sur leur premier drive, ils sont menés 10 à 7 après. Mais ils repassent devant avant la pause. Et puis, ils enchaînent en deuxième mi-temps. L'attaque aide la défense et inversement. Plus globalement, ça en fait quand même une équipe dangereuse et complète sur ce match, on le voit.
Ouais, sur ce match, une fois que tu règles un peu qui était le point faible hein, de cette équipe, cette attaque qui avançait, en tout cas, et qui avait du mal à avancer dans le jeu aérien, une fois que tu corriges le tir avec un quarterback suffisamment capable de faire avancer le ballon, bah ouais, ça devient une équipe complète qui a vraiment plein d'arguments pour aller en play-off. Donc oui, ça... Mais forcément, tu corriges ce qui était le principal défaut, donc l'équipe tout de suite devient meilleure. Alors après, la question, c'est est-ce que Mike White peut tenir ce rythme sur un ensemble de matchs ouais. Pour le moment, l'échantillon est tellement faible que c'est dur à dire. Mais en tout cas, je comprends que Robert Saleh décide de continuer avec lui parce que il a gagné le poste, quoi.
Ah bah clairement. Clairement, non mais on va pas faire le coup de l'équipe qui a un quarterback 2 parce qu'on a vu que c'est pas toujours le cas.
Ouais.
Mais ce qu'on dit là, c'est quand même que oui, quand ils ont un quarterback compétent et que c'est bien joué, parce que mine de rien, c'est équilibré. Il y a 32 courses pour 29 passes, ça gagne 158 yards au sol. Donc ils ont pas, il y a une très grosse fiche de stats de Mike White, mais il bénéficie du jeu au sol. Le jeu au sol bénéficie du fait qu'il y ait enfin une attaque aérienne, parce que bon, on disait aussi c'est la blessure de Breece Hall, mais évidemment, une fois que tu as un quarterback compétent et que tu as des receveurs qui touchent des ballons, bah forcément, ça ouvre aussi des brèches pour le jeu au sol. Ils sont quasiment à 5 yards par course. Même avec un Michael Carter qui s'est blessé et qui sort tôt, hein, c'est Zonovan Knight. Alors, je trouve ça assez mignon. Zonovan, c'est un Z, hein, c'est pas Donovan Knight. C'est pas pour taquiner les gens qui ont un cheveu sur la langue, mais est-ce que tu crois que ses parents avaient un cheveu sur la langue quand ils l'ont déclaré? Ils ont dit qu'il s'appelle Zonovan et ça a donné ça. Mais voilà, en tout cas, ça donne une équipe compétente, ça donne une équipe complète et ça donne une équipe, comme tu le dis, qui joue les playoffs. Ils sont à 7 victoires, 4 défaites. Ils sont plus que dans la course. Et si Mike White maintient ce train-là, contre des meilleures équipes, ce sera ça les tests, évidemment. Et je crois que dès la semaine prochaine, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'on l'avait presque dans les affiches de la semaine. Ce n'est pas les Vikings, c'est les Vikings la semaine prochaine. Hein, Ouais, c'est ça. Donc ça va déjà être un très bon test. Mais franchement, c'est prometteur. Après. J'ai envie de dire, le scénario, là je m'avance très très vite, hein, mais le pire scénario pour eux, c'est un peu si White, s'écrase un peu sur la fin d'année, et là tu te retrouves avec une intersaison à est-ce qu'on fait une Colts à chercher une rustine sur une année, est-ce qu'on redraft, est-ce qu'on garde Wilson, est-ce que. Et là, c'est le truc où en plus il n'y a jamais de bonne réponse.
Non, c'est sûr, ça va pas être évident, mais même si Mike White fonctionne, est-ce que Mike White est vraiment non plus aussi une solution Tu vois ce que je veux dire, c'est
Bah disons que s'il te sort cette fiche de stats là sur les 6 derniers matchs, bon, tu peux y aller sereinement avec lui l'an prochain, mais
oui, tu iras avec lui l'an prochain parce que de toute façon, tu seras a priori pas positionné pour
En plus, bon.
Parce que ça, je pense que là, t'as fini d'utiliser les picks liés à Jamal Adams. J'ai un petit doute, mais je suppose que là, c'est bon.
C'est possible, ouais.
Ça a été fini, donc bon. Ouais.
Ouais, ça va être bon. C'est une autre histoire. Du côté de Chicago, Trevor Siemian qui a fait un bon début de match. On était un peu étonnés. On se disait, tiens, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Il découpe la défense des Jets. Finalement, ça s'est quand même un peu vite calmé. Il est retombé sur terre. C'est logique. C'est limite à lui. C'est ses limites de l'effectif. Je trouve qu'il n'y a rien de surprenant de ce côté-là.
Il n'y a rien de surprenant, mais pour continuer un peu là-dessus, je trouve que ce match-là, j'ai essayé un peu de l'écrire dans le résumé du match, mais c'était un peu compliqué de faire comprendre le parallèle à l'écrit. Mais je trouvais marrant la symbolique d'un Zach Wilson qui est remplacé très très bien par Mike White, et Mike White qui fait carburer l'attaque des Jets, et à l'opposé un Justin Field remplacé, même QB draft remplacé, et par contre les Bears qui depuis 3-4 semaines marquaient plus de 25 points, bam, tombent à 10 points, tu vois. Je trouve que ce match, si on compare ce match rend plus service à Justin Fields parce qu'il faisait avancer son attaque ces dernières semaines, et là ce n'est pas le cas sans lui, que à Zach Wilson. Donc voilà, je trouvais ça un peu marrant ce parallèle entre deux quarterbacks de la même QV, et tu vois finalement l'impact de chacun sur son attaque, quoi.
Ah oui, clairement là tu vois que Justin Fields manquait, en plus il y a la blessure de Darnell Mooney qui aide pas Trevor Siemian. Là je pense que le mot d'ordre, on va plus être dans les on se projette déjà dans les previews, mais surtout ne pas faire revenir Fields trop vite quand même, parce qu'il joue plus rien.
Oui,
il est pas très bien entouré, attention à pas faire cette erreur là. Les Chiefs contre les Rams, 26-10, ça a failli être le Super Bowl de l'an dernier, puisque les Chiefs avaient échoué en finale de conférence. Là, c'était une autre ambiance. Hein. Pas un gros score, mais contrôle total pour Kansas City, qui a enchaîné les longs drives et les points, alors même si c'était parfois des field goals plutôt que des touchdowns. Mais j'ai l'impression que c'est une victoire un peu sans histoire, Raphaël, pour une grosse équipe comme celle-là. J'ai envie de retenir la contribution des rookies. Isaiah Pacheco, 22 courses. George Karlaftis, qui a un sac. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses à retenir pour Kansas City?
Non, je crois pas pour Kansas City. Comme, non, mais tu l'as dit, la participation des rookies, ils ont un peu inhabituellement calé en red zone, ce qui n'est pas tout à fait leur habitude. Bon, voilà, je pense que ça présage rien sur la suite, ce match présage rien sur la suite de la saison de Kansas City, quoi.
C'est vrai qu'ils sont à 1 sur 6 hein, dans la red zone, c'est un peu le point noir. Ouais, c'est le point noir de cette soirée, mais on peut clairement dire que c'est une anomalie, a priori.
Bah, c'est ça, vu l'échantillon qu'on a Mahomes-Reed, je pense qu'on peut dire que c'est une anomalie, tu vois.
Je pense qu'on va pas se... Honnêtement, ce match, il est haut dans la hiérarchie, parce qu'on fait un peu dans l'ordre, là, on est parti sur l'AFC, donc on essayait d'enrober un peu toutes les équipes AFC ensemble, mais c'est vrai que c'est pas un des matchs sur lequel on va dire le plus de choses, je pense, parce que du côté des Rams... Il n'y a pas grand chose à retenir non plus, c'est-à-dire que Stafford et Kupp absent, Allen Robinson qui se blesse, qui ne rejouera pas cette saison, Aaron Donald dont on apprend qu'il est blessé, alors c'est en cours d'évaluation au moment où on se parle, mais bon, ça en rajoute. Bryce Perkins était le quarterback, donc leur troisième quarterback, 13 sur 23, 100 yards tout rond, un touchdown, deux interceptions.
Ouais, mais comme tu dis, c'est leur quarterback numéro 3 avec pas de ligne offensive, plus de receveurs. Je veux dire, bon, il y a un moment.
Et il est le meilleur coureur du soir.
Ouais, voilà. Non, mais
Perkins est le meilleur coureur de son équipe.
Comme tu dis, en vrai, ce match-là, t'apprends rien de plus sur les Rams parce que l'équipe est tellement en décomposition que de toute façon, c'est juste le chemin de croix et la bannière qui continue. Vivement que la saison se termine pour eux, que tout le monde se repose, se refasse une santé et puis on repart l'an prochain sur de meilleures bases. Et voilà. Enfin.
Ouais, si les vétérans sont bien et que tout le monde est dans le bon état d'esprit et qu'on renforce la ligne, hein, parce que
oui,
bon,
non,
ça,
mais
c'est une autre histoire. Mais...
C'est encore une autre histoire, mais à la limite, c'est pareil. Si tu repars à zéro, tu repars quoi qu'il arrive. Enfin, je pense que de toute façon, là, faut terminer la saison et voilà.
Ouais, clairement. Les Dolphins contre les Texans, là encore, c'était un match de favoris, mais il fallait qu'on y passe et qu'on en parle. Les Dolphins 30, les Texans 15. Celui-là aussi, hein. Alors celui-là est encore plus vite, c'est-à-dire que ça s'est joué en une mi-temps. Il y avait 30-0 à la pause, 30-15 à la fin, donc on attend de savoir si après ça fera 30 partout ou 40-15. Bon, c'est une blague de tennis, évidemment. Tu as Tagovailoa qui est sorti dans le troisième quart, hein, tellement c'était tranquille. Donc 30-0 à la mi-temps, les Texans avaient 32 yards quand les Dolphins avaient 30 points. Donc je pense que ça résume à peu près tout, j'avais mis la stat dans le résumé.
Oui.
Raphaël, on avait l'impression qu'ils évoluaient dans deux mondes différents, en fait. Là.
Ouais, là, c'était clairement deux ligues d'écart. Ouais, une équipe des Dolphins qui a fait ce qu'on attend d'une grosse équipe, hein, qui a laminé la petite équipe, et le score est vraiment gentil, hein, pour Houston, parce qu'il y a vraiment bien plus d'écart que ça entre les deux équipes.
Oui.
Donc oui, bah tant mieux, Miami s'affirme vraiment du coup comme une grosse équipe parce qu'ils arrivent à gagner ces matchs facilement, ce qui n'était pas le cas avant pour eux et ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes qu'on voit un peu contenders favoris dans cette ligue. Donc tant mieux, Miami continue son rodage, moi je les trouve franchement de plus en plus impressionnants en attaque. Alors oui, je sais, il n'y avait pas beaucoup d'opposition en défense, mais je trouve que là la machine commence à être huilée vraiment très très bien. La blessure de Terron Armstead, si je dis pas de bêtises, à surveiller.
C'est voilà. Ce que j'allais te dire, ouais. C'est finalement le plus gros fait de match, c'est ça en fait. C'est même pas le score ou quoi. C'est Terron Armstead qui est blessé, déchirure pectorale. Alors, déchirure partielle pectorale. Donc, pour l'instant, sa saison ne serait pas terminée. Les nouvelles seraient plutôt rassurantes. Faut espérer parce que c'est quand même une très très grosse recrue du printemps. Avec Tyreek Hill, c'est les deux plus grosses recrues. On peut vous le dire, hein, dans la rédaction, il y a eu des débats féroces à un moment. Savoir si la recrue la plus importante était Tyreek Hill ou Terron Armstead. Je veux pas. je veux pas balancer de nom sans savoir qui défendait Tyreek Hill, grosso modo Victor, toi et moi, hein, et Jean-Michel était dans le camp Terron Armstead plus important. Bon, en tout cas, évidemment, c'est un jeu collectif, mais c'est pour dire qu'en tout cas, Terron Armstead, c'est très important, et finalement, ouais, ça se retrouve à être le plus gros fait de match, parce que, c'est ce que je disais, il est Lamine, mais en fait, moi, je trouve qu'il est significatif quand même pour ce que t'as dit, qui est... Il y avait un monde d'écart, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils les ont laminés. Parce qu'en fait, c'est pas arrivé si souvent que ça cette année.
Non, clairement.
Quand on disait il y a un monde d'écart, ils doivent les laminer, on se retrouvait des fois avec des surprises ou des équipes accrochées ou machin. Bon, là, au moins, clairement, on a vu la différence. Tu te rends compte, Tagovailoa sort milieu, fin de troisième quart et ils se permettent de laisser Skylar Thompson qui a 1 sur 5 pour 6 yards sur ce match. c'est pour te dire s'ils avaient vraiment pas peur du retour de Houston. Tagovailoa, tu disais, il continue d'être impressionnant, il est quasiment à 300 yards, un touchdown, ça distribue. Il y a quasiment pas de jeu au sol en plus, hein, donc ils sont vraiment. Ils ont déroulé dans les airs, ils ont pas été embêtés. Après, en face, bah, y a rien, quoi. C'est-à-dire que leur meilleur joueur, c'est, on est d'accord, c'est Dameon Pierce, quoi. Et donc, quand c'est ton coureur, ton meilleur joueur, c'est que t'as un problème, mais genre gigantesque, quoi.
Oui. Bah, effectivement, c'est Dameon Pierce leur meilleur joueur, en tout cas leur meilleur skill player.
Il y a la Remington Seal, on va dire.
Ouais, on pourrait dire la Remington Seal, en tout cas en attaque. Oui, bah c'est un problème. On le savait, mais c'est peut-être même pire que ce qu'on pensait finalement. Je sais pas, parce que l'an dernier ils finissent pas si mal que ça. Enfin, ils arrivent à 4 victoires, mais quand là tu vois, je vois même pas comment ils en gagnent plus qu'un. Enfin, ils sont.
Ah non, ouais, clairement, ils sont en très très grosse difficulté. Ils avaient mis Kyle Allen, qui sort une sorte. Alors, je vous donne l'affiche, j'allais dire 215 yards, un touchdown, deux interceptions, mais les 215 yards ils valent rien. C'est-à-dire que c'est dans le garbage time, c'est ce que je vous disais, ils ont 32 yards à la mi-temps. Donc en fait, je vois pas ce que ça. Enfin, je sais pas quel était l'état d'esprit quand ils mettent Kyle Allen au lieu de Davis Mills. C'est pour espérer un sursaut.
Peut-être, oui. Peut-être qu'ils espèrent un truc un peu plus d'Allen qui a un peu plus de bouteilles, j'ai envie de dire. Pas énormément, hein, mais peut-être. Bon.
Après, tu le disais, ça va être compliqué d'en prendre un autre parce que. Déjà, ils sont nuls. Et en plus, le calendrier, c'est-à-dire que derrière, ils jouent Browns, Cowboys, Chiefs, Titans, Jaguars, Colts. Alors, il y a le Jaguars, Colts à la fin, quoi.
Ouais.
Ou sur un malentendu, tu peux. Hein, mais... Les Browns, justement, 23. Les Buccaneers, 17. Les Browns qui s'imposent sur un touchdown de Nick Chubb en prolongation. Et la bonne nouvelle pour eux, c'est surtout qu'ils ont retrouvé un peu de défense, j'ai l'impression, Raphaël.
Ouais, c'est déjà le deuxième match, j'ai envie de dire, cette saison où on voit la défense revenir. On en attendait bien plus, hein, mais en tout cas, ils sont plus convaincants à ce niveau-là. Je les ai trouvés particulièrement efficaces contre la passe, pour le coup, ce qu'on n'avait pas beaucoup vu cette saison et ce à quoi on s'attendait pas forcément. Donc tant mieux, parce que c'était ce dont cette équipe a besoin, particulièrement pour porter, en tout cas en attendant le retour d'un quarterback peut-être plus performant. Bon, bref, on verra.
DeSean Watson revient dimanche, on peut le dire.
L'avenir nous le dira. Mais oui, non. Donc c'est un peu plus ce qu'on attendait des Browns d'avant-saison, j'ai envie de dire.
Après, moi, j'allais te dire, je te trouve presque même un peu dur, au sens où on peut quand même difficilement... Donc on fait quasiment le bilan de Jacoby Brissett après ces 11 matchs. Oui. On n'a pas grand-chose à lui reprocher, hein, parce qu'ils vont chercher... Ils vont chercher un touchdown de David Njoku pour l'égalisation sur quatrième tentative dans le quatrième quart-temps en ayant converti, je crois, une autre quatrième avant dans la série. Il mène ce drive. Bon, il a intercepté une fois, mais il est hyper honorable, en fait, sur ses 11 yards, sur ses 11 matchs. C'est vraiment la défense qui avait été en galère.
Non, mais t'as raison.
La plupart du temps, quoi.
T'as raison. Il s'est gagné une place de quarterback remplaçant pour des années et des années. Hein, il y a zéro doute là-dessus.
Ou peut-être de titulaire des Texans.
Oui, de quarterback bridge sur une saison, t'as un rookie, il est pas tout à fait prêt, tu mets Brissett pour l'entourer quelques matchs, histoire qu'il prenne un peu confiance. Oui, voilà, ça peut être son rôle, mais comme tu dis, ils ont perdu plus de matchs à cause de leur défense que leur attaque cette saison, et déjà, rien que ça, c'est en soi une victoire pour Brissett, j'ai envie de dire.
C'est fou le nombre de remplaçants de Tom Brady qui sont titulaires partout en NFL quand j'y pense, parce que Brissett, Garoppolo, Brian Hoyer, il est plus là, c'est bon, on a fini. Je sais plus, je l'ai vu tellement à d'endroits différents, je sais même plus où il a été. Non mais tu vois, finalement, il y a beaucoup de doublures de Brady qui ont pas mal circulé, quoi.
Ouais, ouais.
C'est ouf hein, quand ils pensent Brissette et Garoppolo. En tout cas, ils ont fait des carrières, quoi. Peut-être. Non, j'allais dire, ça se trouve, Belichick, il avait raison, tu vois, si on l'avait laissé faire. Je suis pas sûr. Valait mieux garder Brady quand même, le maximum. Ouais, ouais. Justement, Brady, je vois passer le débat dans la rédaction, notamment dimanche soir. Il est cramé, il est moins bon, etc. Est-ce qu'il est si cramé que ça ? Moi, je trouve pas sur ce match. C'est avec Mike Evans que ça coince beaucoup.
Ouais.
Mais sur les autres, pas tant que ça.
Non, pour le coup, je te rejoins dans le sens que je le trouve meilleur qu'en début de saison. Ouais. Pour moi, s'il était cramé, son niveau n'aurait fait que baisser toute la saison, on va dire. Là, on n'est pas dans cette dynamique-là pour le coup. Je te rejoins, il y a ce problème d'alchimie avec Mike Evans complètement perdu qui est un peu étrange. Mais en dehors de ça, sur ce match-là, je trouve pas qu'il y a grand-chose à lui reprocher. Hein, sincèrement, il prend. Alors oui, c'est plus le grand Tom Brady qui peut peut-être changer le cours d'un match, mais globalement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, il n'y a pas...
Non, c'est ça. Pour un mec qui lance 43 passes et qui ne se fait pas intercepter, après, voilà, il manque d'efficacité. C'est sûr que cette équipe manque d'efficacité. Il punt, je ne sais plus, 9 fois. Il punt 9 fois. Ils n'ont même pas perdu de ballon, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'ils sont à 17 points sans perdre de ballon. Ils sont juste inefficaces.
Ouais.
Et on a du mal un peu à comprendre ce qui manque, cette relation avec Mike Evans... Je sais même pas, un peu de jeu au sol au sens où ils ont une centaine de yards. Je sais pas, c'est assez dur de pointer le doigt dessus. Y a des blessures qui s'accumulent. Tristan Wirfs, alors c'est pas sur ce match que ça va se jouer pour le coup, mais ça pourrait leur faire très mal. Ils ont l'air d'être très pessimistes de toute façon. Et Brady était très pessimiste sur la perte de Wirfs, son lineman offensif. Antoine Winfield, Mike Edwards, Carlton Davis qui sortent aussi en défense. Je sais pas. La bonne nouvelle, c'est que leur division est affreuse et qu'ils sont toujours libres.
Oui, de manière assez miraculeuse, effectivement, c'est la bonne nouvelle. Après, pour faire quoi, j'ai envie de te dire. Parce que à l'heure actuelle, je sais bien que Tom Brady est Tom Brady et que t'as pas envie de le jouer en playoff, et j'entends. Mmh. Mais à l'heure actuelle, va vraiment falloir qu'il sorte un très très gros match pour aller embêter certaines des équipes NFC quand même. Hein.
Ouais, j'ai du mal à pointer sur le doigt sur ce qui va pas sur cette attaque. J'ai toujours ce petit espoir de me dire c'est peut-être un truc de rythme, un truc de confiance et ça peut revenir parce qu'encore une fois, ils sont pas à la rue, ils font pas 25 erreurs.
Le play calling est pas franchement incroyable. Après, est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit que ça non plus. Comme tu dis, hein, c'est un mélange de plein de petites choses et ça tourne pas pour le moment.
Les Colts 17, Steelers 24. Est-ce que c'est un peu la fin de la lune de miel pour Jeff Saturday, Raphaël ?
Ouais, je sais pas si c'est la fin de la lune de miel. C'est vrai qu'il, pour le coup, il a très mal géré l'horloge en fin de match.
Ah ouais, la fin de match, ça a été compliqué.
Il y a ce dernier drive où ils prennent pendant 45 secondes entre un sac que prend Matt Ryan et puis la tentative, il se passe rien quasiment. Enfin,
alors qu'ils ont leurs 3 temps morts. Donc en fait, il est rentré au vestiaire avec 2 temps morts.
Ouais, ce qui est un peu étrange alors qu'ils avaient un dernier drive pour remonter et t'aurais pu prendre des temps morts pour essayer de te réajuster. Mmh. Enfin bon, bref. Donc il y a cette gestion de l'horloge qui est vraiment pas bonne par Saturday. Après, sur le reste du match, il est aussi un peu victime des erreurs de ses joueurs. Tu vois, le fumble de Taylor devant l'end zone, l'interception de Matt Ryan qui est affreuse. C'est pas tellement lui que de la mauvaise exécution, j'ai envie de dire. Donc, ouais.
Oui, non, mais je pense que c'est fin de lune de miel aussi au sens où il réalise l'effectif qu'il a. C'est et en plus, ils n'ont pas de perspective pour le coup. Alors autant justement, c'est moi dans le résumé, ce qui me choquait, c'était un peu ça, c'est la différence entre les deux équipes parce que ils ont quasiment le même bilan, 4-7, 4-7-1. C'est que t'as deux types d'équipes à 4-7 et t'as l'équipe à 4-7 avec des mecs vieillissants et en fait il n'y a pas de perspective d'amélioration, tu vois. Matt Ryan, il va pas devenir meilleur du jour au lendemain. La ligne, il prend encore 3 sacs, etc. Yannick Ngakoue a quelques sacs, mais c'est pas non plus un mec jeune et tout. Et en face, t'as un 4-7 mais avec une équipe qui a un jeune quarterback qui progresse doucement. Ils font leur petit truc petit à petit et tu sens que ça peut monter petit à petit, parce que sur ce match Pickett est encore une fois propre, pas flamboyant, pour le coup lui il est vraiment dans une progression tu vois, c'est...
Ouais, c'est... on y va tranquillement,
voilà, il fait pas d'éclat, il fait pas d'horreur, mais voilà, mais c'est intéressant mine de rien.
Oui, bah, et puis il y a une vraie connexion qui est en train de se créer avec George Pickens, ça se voit, je trouve que quelque chose est en train de naître entre eux deux. Donc comme tu dis, c'est intéressant d'avoir une équipe qui peut repartir l'an prochain avec son duo quarterback-receveur. Il y a encore beaucoup de choses à changer en attaque et voilà. Mais oui, ça progresse doucement. Comme tu... Ouais, c'est pas la même dynamique, je te rejoins.
Après, deux trucs, il y a aussi Diontae Johnson, il y a aussi Pat Freiermuth qui sont jeunes, Najee Harris est jeune, etc. Donc ça va vraiment être un gros travail de la ligne offensive, je pense, pendant le printemps. Remettre un peu de 109 en défense autour de TJ Watt, ça peut être pas mal aussi, même s'il y a Watt et Fitzpatrick,
il y a 109 à mettre en défense.
Mais tu vois, avec un bon coach comme Tomlin, une franchise qui est quand même bien structurée et tout, moi, sur ce match, je me disais, tiens, c'est pas inintéressant, c'est un 4-7, mais une équipe qui progresse. Après, deux trucs, Pickens, je sais pas si je fais un peu de dyslexie, mais pour moi, c'est un enfer dans les résumés de match. C'est-à-dire que partout où j'aurais dû écrire Pickens, j'écrivais Pickett, partout où je devais écrire. Donc j'ai dû corriger plein de fois mes fautes de frappe. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Et après, ouais, on disait Pickett, c'est progression en douceur, c'est-à-dire que c'est 0 touchdown, 0 interception. Et en fait, si tu regardes ses stats de la saison, il a lancé que 3 touchdowns pour 8 interceptions. Alors, il n'a pas lancé d'interception depuis 3 matchs, mais il a lancé qu'un seul touchdown. Il a un touchdown, 0 interception
en
3 matchs. Quoi.
C'est pour ça, quand on dit c'est de la progression minimale, c'est... Tu l'as dit, il y a du changement ligne offensive. Je pense aussi qu'avoir un meilleur coordinateur offensif pourrait lui donner un petit coup de boost, parce que tu sens que Matt Canada, il était ronronnant déjà quand c'était un vétéran comme Big Ben. Mais je pense qu'il a pas ce qu'il faut pour emmener un quarterback rookie, donc il faut apporter un peu de jus à ce niveau-là.
Mais tu vois, on en revient pour Pickens à ce que tu disais au début sur Zach Wilson, McWhite. La différence, c'est que Pickens, c'est progressif, mais on le sent pas perdu sur le terrain. J'ai dit quoi ?
Pickens, il me semble.
Tu vois ? Donc Pickett, on le sent pas perdu sur le terrain, même si c'est pas incroyable.
C'est vrai.
Et c'est pour ça qu'en fait j'arrive à m'enthousiasmer sur un mec qui a 3 touchdowns et 8 interceptions. C'est que tu le sens pas paumé, il fait pas n'importe quoi.
Oui.
Et ça, mine de rien, c'est toujours intéressant. Petite respiration et le reste des matchs.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
On passe un peu plus du côté de la NFC avec un match entre les 49ers et les Saints. Énorme travail défensif des Niners qui ont volé 2 ballons, autorisé 0 points. Ça fait 6 cartons de suite qu'ils n'ont pas pris de points et ça fait 4 matchs de suite qu'ils n'ont pas pris de points en deuxième mi-temps. Je crois qu'on ne va pas chercher très loin les raisons de cette victoire, Raphaël.
Non, en général, quand ton adversaire est à 0 points, la raison de la victoire se situe probablement dans ta défense. Donc oui, il confirme toutes les bonnes choses qu'on pensait d'eux en défense depuis le début de la saison, et j'ai presque envie de dire pas loin à la surprise générale. On savait qu'il y avait un front seven costaud avec Warner, Bosa, il y avait pas de doute là-dessus, mais pour moi la grosse surprise c'est quand même le niveau de leur backfield défensif qu'on n'attendait pas à pareille fête, et ils surprennent à ce niveau-là sans aucun doute aidés par ce front seven encore une fois, mais voilà, on s'attendait pas à ce que San Francisco soit aussi solide contre la passe notamment, et D'Amico Ryan, leur coordinateur défensif, est en train de se faire un petit CV pour les semaines, voire peut-être l'an prochain. Donc non, c'est... Et c'est étonnant parce qu'en tout cas, depuis que c'était Shanahan, le coach des 49ers, on les voyait d'abord victorieux par l'attaque, j'ai envie de dire. Et là, ils prouvent qu'ils sont capables de gagner soit en explosivité, comme la semaine dernière en attaque, soit en défense en fermant totalement le rideau.
Je te rejoins totalement et ça sera, je peux le teaser, un des points importants de la preview de la fiche de la semaine, puisque ça va être un super match entre les Dolphins et les 49ers, notre affiche de la semaine dans la preview avec Victor. Moi, je me régale de ce match, c'est clairement deux super franchises et opposition de style total. Et justement, ce backfield défensif, on en parlera avec Victor, mais il va avoir un sacré test avec Tyreek Hill, Jalen Waddle, Tua Tagovailoa et compagnie. Là, en effet, bon, Andy Dalton, c'est un peu moins flamboyant, donc... Mais tu disais, c'est perf défensive de très haut niveau. C'est pas un hasard quand tu prends pas de points depuis 6 cartons de suite. Quoi.
Non, c'est sûr. Bah, surtout en NFL, on le voit bien. Après, tu dis opposition de style. Et c'est quand même deux attaques qui se ressemblent énormément, hein, qui sont basées sur les mêmes concepts.
Oui, pardon, je voulais dire au sens où tu vois, la force de San Francisco, ce sera la défense. La force de... C'est plus ça, c'est ce clash-là. Quoi, mais après, oui, en termes de style en lui-même, en effet, je suis
offensif,
d'accord avec toi. Oui.
Tu sens que Mike McDaniel, c'est pas l'élève de. Et pas l'élève de Shanahan pour rien, quoi. Tu vois,
c'est vrai que c'est deux coachs qui se connaissent en plus. Il y a eu un débat dans la rédaction, d'ailleurs, dimanche. Beaucoup de débats de rédaction qui ressortent aujourd'hui dans l'émission. Sur le niveau de Jimmy Garoppolo. Alors, dans un jour où le jeu au sol était limité relativement pour San Francisco, parce que 96 yards, c'est limité pour eux. Il a minimisé les erreurs, il a réussi quelques conversions importantes sur troisième tentative. 222 yards, un touchdown en 37 passes, c'est pas gigantesque.
Non.
Mais c'est ce qu'on lui demande et ça continue de passer.
C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça marrant que le débat ressorte sur ce match, dans le sens où c'est un match garopolesque, j'ai envie de dire. Comme il sait bien le faire, c'est un quarterback globalement propre qui fait peu d'erreurs. Là, il n'a pas eu beaucoup à forcer pour faire revenir San Francisco de je ne sais où. Enfin, il n'a pas eu à jouer dans la profondeur. Il est dans sa zone de confort. Il le fait globalement bien. Voilà. Après, ça ne voudra pas dire que le jour où il va falloir remonter 20 points de retard ou 14 et qu'il va falloir aller chercher de la profondeur, il pourra le faire.
Ouais, c'est Garoppolo.
Voilà.
Les Saints détruits en attaque, Alvin Kamara qui perd deux fumbles. C'est évidemment une soirée sans pour eux, clairement. Est-ce qu'ils se consolent quand même avec leur défense? Parce que mine de rien, eux, ils n'en prennent que 13 des points.
Oui, ouais, leur défense est mieux aussi également. Je trouve contre la course notamment, ils redeviennent un peu plus costauds que ce qu'ils n'ont été cette saison contre la course. Et c'était un de leurs points forts d'intersaison, avant la saison, ce qu'on imaginait, donc tant mieux. Après, offensivement, Chris Olave, mine de rien, montre que ça peut être un vrai receveur sur lequel construire dans le futur. C'est déjà ça.
Rookie offensif de l'année.
Oui.
Je pense. Eagles 40, Packers 33. 363 yards au sol pour les Eagles. Raphaël, dans Top Chef, on appelle ça un parti pris. il faut dire que quand t'es à 7,4 yards par course, a priori, t'aurais tort de t'en priver. Quoi. Tu remets le même plat.
Bien sûr, c'est ça. Pourquoi l'important au foot américain, c'est jouer intelligemment en insistant sur ce qui fonctionne. À partir du moment où ça court autant, effectivement, pourquoi s'efforcer à lancer sur Edgy Brown ou Smith quand tes coureurs s'amusent autant? Donc c'est intelligemment coaché de la part de Sirianni, j'ai envie de dire. Et pareil, je trouve que l'écart est au score final est gentil par rapport à l'impression de domination qu'ont donné les Eagles, sincèrement.
Je suis sûr que...
Pour moi, il y a bien plus que 7 points d'écart sur ce qu'on a vu dans ce match et l'addition. Enfin, en étant peut-être un peu plus sérieux, je pense que Philadelphie avait les moyens de gagner largement plus facilement ce match.
Ouais, non, mais clairement, c'était quand même une sacrée boucherie. Hein. C'était quand même une sacrée boucherie. Non, mais comme tu dis, c'est quand une équipe se fait humilier encore et encore sur le même point. En plus, c'est dur quoi, pour cette défense des Packers, c'est une humiliation. 7,4 yards par course quand même. Quoi. Tu prends très très cher. Il y a 500 yards au total pour Philadelphie. Je veux dire, c'est quand même complet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait que courir. Il y a 500 yards tout rond. Ils ont eu les Packers à l'usure. Ils se sont détachés au fil du match. Leur défense prend pas mal de points. Bon, on met ça sur les blessures au poste de corner. Il y a une sortie notamment de Garner Johnson. Est-ce que ça peut être un point d'inquiétude quand même de prendre 33 points contre Green Bay actuellement?
Je sais même pas. Je te dis, j'ai trouvé le scénario du match un peu étrange. Et cette remontée un peu au score de Green Bay, je la trouve un peu artificielle. Alors oui, la blessure de Garner Johnson, c'est embêtant parce qu'il a eu vraiment un impact. C'est une signature d'intersaison qui a un vrai impact et sur laquelle les Eagles vont avoir besoin et doivent compter pour la suite de la saison. Maintenant,
il a une lacération d'un rein. Apparemment, il aurait pas besoin d'opération, il pourrait revenir cette saison.
Ouais, bon, tu sais, en NFL, moi, je veux plus rien ne m'étonne. Les mecs, peu importe la blessure, je suis prêt à les revoir le lendemain, quoi.
Tu sais, je regardais la Coupe du Monde et on m'a dit Neymar, il joue pas parce qu'il a une entorse à la cheville. J'étais là, mais attendez, ils connaissent pas le Toradol. C'est un médicament miracle, un petit shoot, tu sens plus rien. Tu peux faire des jongles et mettre des coups francs avec ton pied droit même si t'as une entorse. C'est ça.
Non, visiblement, ils connaissent pas encore parce que quand on voit certaines blessures foutues, non, clairement. Voilà. Après, pour revenir sur Philadelphie, moi, c'est pas un match qui m'a inquiété. Peut-être trop optimiste, hein. Je suis sûr que Victor n'aurait pas tout à fait la même analyse et le même regard. Mais encore une fois, pour moi, ça prouve que Philadelphie peut gagner de diverses manières. Et t'as pas besoin de forcer à la passe, t'as un jeu au sol grâce à cette ligne offensive qui écrabouille un adversaire et on y va, quoi. Je trouve que le nombre d'armes et de solutions pour gagner un match de côté de Philadelphie, en NFC, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont plus ou qui font mieux. Donc franchement...
Non, mais clairement. Aaron Rodgers qui s'est quand même bien battu, mais il est sorti avec une blessure aux côtes. Jordan Love, on a eu un aperçu de Jordan Love en saison régulière. 6 sur 9, 113 yards, un touchdown. C'était pas mal.
C'était précis. Je l'ai trouvé aussi serein dans la poche. Non, je suis d'accord, c'était pas mal. Voilà, alors est-ce qu'on veut lancer un peu d'huile sur le feu? Je sais pas.
Écoute, je sais pas si c'est de l'huile sur le feu, mais à 4-8 avec Aaron Rodgers qui a un pouce cassé, des côtes cassées, au bout d'un moment, est-ce qu'il serait pas temps de voir un peu ce que le genou a? Alors évidemment, je sais que tu payes Aaron Rodgers une fortune.
Bah ouais, tu l'as reprolongé cette intersaison quand même, c'est chaud, hein.
Enfin, il va partir avec son magot, non? Il y a bien un moyen de trouver un accord. Attends, Aaron Rodgers contract. J'aime pas faire mes recherches d'habitude pour l'émission, je prépare en amont, mais ça, je l'avais pas. 3 ans, 150 millions de dollars, 101 millions garantis totalement, et 150 millions garantis contre les blessures. Ah non, donc du coup, il faut qu'il joue s'il est blessé, sinon ils vont devoir tout lui payer, non?
Ouais, il doit y avoir des clauses suivant la blessure, suivant le monde.
Et 40 millions de bonus à la signature. Ça fait cher la saison à 4-8, hein, quand même. Hein.
Ça fait cher la saison à 4-8. Effectivement, c'est pas les seuls, hein, qu'on une saison chère.
C'était pas donné. Bon, en tout cas, toi, tu ferais jouer Love?
Pourquoi pas?
La blessure diplomatique cette semaine en mode non, Aaron n'est pas totalement bien remis. Comme ça, s'il se plante, tu remets Rodgers et puis.
Ouais, pourquoi pas, effectivement. Si tu peux tester un peu Love. Ou alors, mine de rien, tester Love, le montrer pour essayer d'en récupérer quelque chose à force de le garder.
Aussi.
Tu vois, si t'arrives à.
en tout cas, c'est ce que tu dis à Rodgers pour faire passer la pilule. Parce que sinon, il va s'énerver. Tu dis non, mais Aaron, c'est juste pour le montrer et le vendre aux Jets ou aux Texans, tu vois.
Oui, voilà.
En tout cas, en face, ce sera les Bears la semaine prochaine. Tu vois, donc ça peut être. Leur calendrier pour les deux semaines à venir, c'est Bears et Rams.
Oui, tu peux mettre des points.
Tu peux essayer. Les Seahawks 34, Raiders 40. Match complètement fou, remporté par les Raiders sur une course de 86 yards de Josh Jacobs en prolongation. Les Raiders qui reviennent un peu de l'enfer, ils menaient 24-20 à la pause. Ensuite, ils étaient menés 34-27 à un peu plus de 5 minutes de la fin. Ils ont manqué un field goal de 56 yards en début de prolongation, donc ils ont rendu la balle à Seattle qui avait une balle de match. Ils ont bien défendu et ils ont fini par marquer. C'est un match complètement dingue. Le constat quand même premier, Raphaël, c'est l'explosion de la défense de Seattle qui prend 576 yards dans ce match.
Ouais, j'ai envie de dire que c'est même presque étonnant parce que cette saison, il progressait semaine après semaine en défense. On se disait, ah, ok, la sauce est en train de prendre avec tous ces jeunes joueurs, tout ça. Et là, ils sont retombés de manière assez inexplicable hein, parce que vraiment, que ce soit contre la course ou contre la passe, ils explosent dans absolument tous les domaines. Alors qu'en plus, à la passe, en dehors de Davante Adams, il n'y a pas beaucoup de clients en face. Hein. Ça doit pas être l'équipe à... Enfin, quand on voit comment les Raiders galèrent depuis le début de la saison, c'est un peu étonnant de les voir chuter comme ça. Donc, en tout cas, pareil, contre la course, il aura manqué un ou deux gros plaqueurs qui viennent embêter un peu plus Jacobs. Contre-coup, on va attendre de voir.
Un peu inquiétant quand même, parce qu'ils commencent à être battus sur les trucs qui étaient leur force quand ils gagnaient, c'est-à-dire que leur défense se solidifiait, là elle explose. Ce qui est dingue, c'est qu'ils commencent par interception, touchdown d'interception en défense, donc ils ont quand même deux interceptions sur les trois premiers drives, puis derrière il n'y a plus rien. Derek Carr les massacre aussi, Josh Jacobs donc cumule plus de 300 yards entre... Jacobs il a 229 yards au sol, 74 dans les airs, il est meilleur coureur, meilleur receveur à égalité avec Adams. Incroyable. Et donc je disais, Seattle, il souffre en défense et il souffre au sol aussi, parce que Kenneth Walker, alors il marque des touchdowns mais il a beaucoup moins d'impact, hein. 26 yards en 14 courses, ça vous fait une moyenne de 1,9 quand même, donc c'est ça aussi qui leur fait mal.
Ouais, c'est ça, ils ont pris l'eau aussi, leur ligne offensive qui était mieux depuis le début de la saison grâce au rookie a pris un peu cher face à Max Crosby, ils ont pris de la pression, ils ont eu du mal à installer leur jeu de course. Donc après bon dans les faits ils marquent quand même 34 points tu vois et ça rame mais ça marque des points malgré tout donc
c'est vrai
je sur l'attaque disons que je serai encore un peu indulgent parce que met 34 points enfin
c'est vrai non c'est vrai
tu vois ce que je veux dire enfin si on m'avait dit à l'intersaison que Geno Smith il conduirait les Seahawks à quasiment 30 points à chaque match je l'attaquerais pas en premier
Ah oui, parce que d'autant que lui ne faiblit pas particulièrement.
Non, lui, il garde son rythme, hein, le PPR. Donc...
clairement. Josh Jacobs, je l'ai mentionné, donc c'est un peu le héros de la soirée. Pour les Raiders, on en revient un peu à ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on le voit lui, bah, ça va beaucoup mieux pour eux.
Ouais, il passe pas loin de la correctionnelle, hein, parce que pareil, il la joue un peu petit joueur, l'ami Josh McDaniels, là, en cette fin de match où... De mémoire, il lui reste un temps mort, 14 secondes, et il tente un field goal directement plutôt que d'aller pour aller en prolongation, plutôt que de tenter une énième passe ou un truc comme ça. Enfin, j'ai ça en tête. J'espère ne pas me tromper.
Le field goal, c'est pas en prolongation. C'est le sur quatrième. Ils sont à 4e et 2 sur les 38 de Seattle, et ils tentent un field goal de 56 yards plutôt que d'essayer d'avancer.
Alors attends, c'est pas forcément à ça que je pense.
Parce qu'en fin de match, t'as un touchdown et un échec sur quatrième.
C'est peut-être, je confonds peut-être, mais j'ai en tête une gestion de fin de match un peu hasardeuse.
Parce que sinon, dans le troisième quart-temps, t'as une quatrième et un où ils sont sur les 7 yards de Seattle et ils tentent un field goal pour égaliser.
Peut-être, donc, j'avoue, je m'en mêle peut-être les pinceaux sur le coup, mais... Ils s'en sortent grâce à cette course un peu incroyable de Jacobs et après comme tu dis quand on le voit ça va mieux mais encore une fois
je sais pas je pense qu'il oui non mais après ça reste une équipe qui est très limite hein. Tu l'as dit ils prennent quand même 34 points en défense et ça tient à une performance monumentale de Josh Jacobs plus la prolongation où en plus en prolongation ils ont manqué un field goal donc on va pas s'emballer et dire qu'ils sont de retour et que ça va enchaîner ou quoi hein. Honnêtement, la meilleure affaire, elle est peut-être pour Josh Jacobs. Il est free agent à la fin de l'année.
C'est vrai qu'il est en train de se refaire une cote pas inintéressante.
Ça peut être intéressant pour lui. Après, on a vu que le marché pour les free agent running back ces dernières années, souvent ils espèrent beaucoup, mais ils attendent. Hein. Les Commanders 19, Falcons 13. Les Falcons qui étaient sur le point de prendre l'avantage en toute fin de match, mais Daron Payne a surgi pour dévier la passe de Marcus Mariota. Kendall Fuller a intercepté le ballon. Il y avait 10-10 à la mi-temps. Les Commanders ont surtout dominé avec leur jeu au sol pour prendre le large. Alors, large très relatif évidemment, mais c'était un match de coureur, on va dire, Raphaël. La différence, c'est que Washington a une un peu meilleure défense et un quarterback qui fait tout un petit peu mieux.
Oui, non, mais c'est ça, sur la défense, notamment le front 7, hein, de Washington, qui ne fait que monter en puissance un peu ces dernières semaines, qui met beaucoup de pression, et c'est ce qui fait la différence sur ce match. L'écart n'est pas énorme, hein, entre les deux équipes, il y a 5-7 d'un côté, un bilan de 5-7 pour Atlanta, et un bilan de 7-5 pour Washington. L'écart me semble pas énorme entre les deux, comme je le dis.
Comme... Ouais, mais...
Oui, non, mais je te rejoins. Washington fait tout un peu mieux.
C'est marrant hein, parce que la physionomie est un peu la même, c'est-à-dire que ça essaye de courir. Heinicke lance 23 passes, Mariota 25. Tu vois, c'est un peu dans les mêmes eaux, quoi. Le plan de jeu est un peu le même, sauf que bon, bah t'as un côté où Heinicke il est un peu meilleur et il a Terry McLaurin, quoi.
Oui.
Donc ça te permet de débloquer des petites situations de temps en temps. En plus là, le jeu au sol pour Atlanta, quoique ça marche quand même pas mal.
Ouais, ils s'en sortent pas si mal au sol, hein, quand même.
Donc, mais vraiment, c'est un peu similaire. Hein. Washington a 176 yards au sol, Atlanta 167, et à la passe 138 pour Washington, 165 pour Atlanta. Donc ça s'est joué sur la finition, sur cette interception de fin de match, ces deux équipes qui étaient plutôt proches. Je regarde, oui, dans la red zone, 2 sur 3 pour Washington, 1 sur 2 pour Atlanta. Donc voilà. Mais alors, Tyler Heinicke qui est un peu gêné, on le voit se tenir le coude et l'avant-bras un peu pendant le match, à surveiller éventuellement qu'il se retrouve pas à remettre Carson Wentz. Là, ça pourrait être compliqué. Mais moi, j'en parlerai aussi dans la preview. Je trouve qu'il ressemble un peu à des Giants un peu plus complets aussi en ce moment, les Commanders, dans cette truc de on gagne des matchs un peu accrochés. Avec un peu de défense et tout ça.
Oui. Il y a quelque chose, mais avec une dynamique un peu meilleure en ce moment que.
Ben, c'est ça.
Une courbe, dans une meilleure. Ouais.
C'est ça. Et là, ils vont se rencontrer et les courbes pourraient se croiser en fait la semaine prochaine. On en parlera dans la preview, mais les Falcons toujours beaucoup de travail pour renforcer la défense quand même.
Ouais, c'est l'axe. C'est l'axe. Ça dépend un peu de ce qu'ils décident de faire avec leur quarterback rookie sur le banc l'an prochain. Mais en dehors de cette question-là du quarterback, oui, je te rejoins sur le fait que c'est cette défense qui est l'axe principal, qui, on l'a dit, on l'a répété pas mal de fois, qui manque de talent en dehors d'A.J. Terrell sur le poste de cornerback et de Grady Jarrett. C'est peut-être un peu léger. Donc il faut injecter du rookie pour espérer faire du rookie ou du free agent hein, d'ailleurs, pour espérer améliorer l'effectif l'an prochain, ouais.
On termine avec les Panthers et les Broncos, 23-10. Alors celui-là, mon ami, il était d'une tristesse absolue. 17-3 Panthers dans le troisième quart. Et là, c'est toi, Raphaël, sur le chat de la réaction, je me rappelle, qui a dit « Bon, c'est fini. Les Broncos ne peuvent pas marquer 17 points, donc c'est fini. » Et tu avais « On ne peut plus raison. Ouais. » Ils sont affligeants. On ne voit plus trop ce qu'ils peuvent changer. On ne voit plus trop ce qu'ils peuvent faire. On ne sait plus trop si c'est le quarterback. Il y avait un long papier d'ESPN cette semaine que je vous conseille, qui était qu'est-ce qui a changé ou pas chez Russell Wilson ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qui est pareil qu'à Seattle ? Qu'est-ce qui a changé en bien ou en mal ? Et en gros, il disait, alors ce qui n'a pas changé, c'est le jeu court. Le problème, c'est que c'était déjà pas son point fort. Et qu'est-ce qui a empiré ? À peu près tout le reste. Alors, je force un peu le trait, hein. Mais grosso modo, ils expliquent qu'ils gardent un peu les mêmes mauvaises tendances qu'il avait à Seattle, parce que c'est vrai que le jeu court, ça a jamais été son truc, les passes rapides.
Oui, bien sûr.
Donc ça, il est toujours pas bon dessus, et en plus, le jeu long est beaucoup moins là, et il gère toujours quand même aussi moyennement la poche, etc. Donc bref, je digresse parce que sur le match en lui-même. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire ? T'aurais été à la tête de ces Broncos là quand ils sont menés 17-3, t'aurais fait quoi ?
Je sais pas. Non, mais comme tu dis, je sais pas parce qu'il n'y a pas les solutions a priori en interne pour améliorer ça. On a vu hein, quand même la défense, un des défenseurs qui est venu s'embrouiller avec Russell Wilson sur le banc. Et ça, on le dit pas souvent, mais c'est assez rare hein, que les défenseurs s'en prennent. En général, les embrouilles dans une équipe, elles sont au sein d'une même partie d'équipe. On voit des défenseurs s'embrouiller. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit souvent des défenseurs s'embrouiller entre eux, ou c'est le quarterback gueuler sur son lineman offensif ou sur ses receveurs. En général, attaque et défense, en tout cas sur le banc, c'est presque, j'ai envie de dire, presque deux équipes un peu à part. Elles viennent pas s'embrouiller, ils viennent pas se reprocher des choses.
Ouais. C'est vrai que t'as jamais vu Tom Brady engueuler la défense.
Voilà, c'est chacun fait sa partie du taf. Alors, je ne doute pas qu'il règle des problèmes dans le vestiaire, en interne, tout ça, ça. Les lendemains, les débriefs de match et tout, je doute pas qu'ils se rendent dedans, mais en tout cas sur le banc, c'est quelque chose qu'on voit très très rarement. Et là, on l'a vu cette semaine, et parce que encore une fois, je comprends, la défense de Denver tient longtemps, fait globalement un bon match, tient, jusqu'à finir par céder, parce que de toute façon, ils sont sur le terrain toutes les 3 minutes, et encore 3 minutes, je suis gentil. Mais donc oui, non, pour revenir à ta question, je ne sais pas quoi changer, parce que je vois pas je vois pas en fait ce que tu peux changer pour le moment parce que le problème vient de Russell Wilson, donc à part le mettre sur le banc, mais
ce serait incroyable,
mais c'est pareil, tu le mets sur le banc, tu mets qui?
Attends, je sais même plus.
Je sais même pas qui est leur quarterback remplaçant.
Je sais même plus qui est leur quarterback numéro 2. C'est Brett Ripien.
Voilà, non mais tu mets Brett Ripien, alors imagine ça se passe un peu mieux, tu te mets en plus dans une galère pour l'an prochain, je te raconte même pas dans quel dilemme tu te mets.
Oh la vache.
Mais d'un côté, sincèrement, si j'étais coach, je me demande si je le ferais pas, parce que ne serait-ce par respect pour tes défenseurs qui tous les dimanches se...
Bah, de toute façon, ce serait pas mal de le faire, qu'on sache si c'est aussi le coach, tu vois.
Oui, non mais tu vois, Robert Saleh l'a fait finalement, avec son quarterback de première, enfin de deuxième année, Wilson ça marche pas, il dit bah attends, non mais on tente parce que ma défense doit faire mieux, enfin je dois quelque chose à ma défense, je peux pas...
Après, l'un dans l'autre, j'ai envie de dire, Saleh le fait presque parce que aussi il joue
en
les playoffs.
Ouais, bien sûr.
Tu vois, là ils ont rien à jouer, donc presque c'est encore plus humiliant pour Wilson si tu le sors.
Ouais, non, je
peux
sais
même
pas
avoir
plus,
l'excuse
ouais,
de... Mais... Tu le disais, si tu enlèves leur drive de touchdown en fin de match, parce qu'ils ont un drive de touchdown, moi je couvrais ce match pour le résumé de 19h, il y a 169 yards en 13 possessions offensives. Donc ça fait, je suis pas mathématicien, mais donc ça fait quoi, 11 yards de moyenne par possession,
près,
grosso modo. Enfin, 11-12 yards par possession, ça veut dire que tu as gagné un first down par possession. Enfin, c'est n'importe quoi, ça n'avançait plus, il se passait rien. Latavius Murray a l'air d'être un joueur plus frais que Russell Wilson, alors que c'est Latavius Murray qu'ils ont dû récupérer sur le waiver en milieu de saison, je sais plus comment. Et même pas, tu peux dire, il y a des équipes où il y a quand même des blessés de partout, etc. Alors oui, il y a pas Jerry Jeudy, etc. Mais Courtland Sutton, c'est quand même pas non plus n'importe quoi. Bon, Kendall Hilton, Greg Dulcich il avait fait quelques trucs. Oui, alors évidemment, les autres sont pas incroyables, mais tu vois, au bout d'un moment, t'es Russell Wilson, quoi.
Bah, en tout cas, tu l'as payé pour qu'il puisse jouer avec cette escouade-là, en fait.
C'est ça.
Parce que tu pensais que c'était suffisant et la blessure de Jeudy ne peut pas expliquer ça, elle toute seule, c'est certain.
C'est ça. Donc, ça reste l'équipe la plus déprimante de ligue. C'est un truc de ouf de se dire qu'on regrette Drew Lock et Vic Fangio, quoi. C'est vraiment le truc le plus... Je pensais dire des trucs étranges des fois, mais alors je pense que celui-là il rentrera au panthéon.
C'est vrai que pour avoir fait quelques matchs des Broncos cette saison et en avoir fait pas mal l'an dernier, ça jouait mieux avec Drew Lock, hein. C'est un fait. Enfin,
ouais,
c'est incroyable, hein, à dire. Mais...
Et je pense que là on a ce ton un peu consterné, c'est parce que moi, encore une fois, on pourra toujours me dire oui, mais on voyait machin. Personne pouvait voir une telle catastrophe.
Non, mais
genre c'était impossible de dire que ce serait à ce point-là. 169 yards dans 13 possessions, personne pouvait prédire
c'est...
ça.
Mais c'est ce qu'on s'est dit, hein, sur le chat, c'est que on pouvait, des gens pouvaient avoir des doutes sur, parce que le quarterback change d'environnement, change de, donc pouvait y avoir des doutes sur le fait que ça allait marcher d'un coup et qu'ils allaient aller au Super Bowl et tout ça. Ça, je l'entends. Mais oui, cette catastrophe industrielle-là, personne ne l'avait vu venir. Personne ne peut dire oui.
tu vois, d'un dauphin, tu n'en fais pas un requin. Mais visiblement, d'un requin, tu peux en faire un dauphin. Russell Wilson est passé par le processus inverse. Il est devenu, on ne sait pas, c'est bizarre. Du côté des Panthers, quand même, ils ont gagné 183 yards au sol. Il faut féliciter ça. Ça a permis à Sam Darnold de faire les minima dans des bonnes conditions. Il y a deux belles passes pour DJ Moore, notamment. Bon, après, Darnold, il est à 11 sur 19, 164 yards d'un touchdown.
Voilà,
ça reste pas non plus. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de renaissance, Raphaël? Je ne sais pas.
Non, je ne crois pas. Écoute, on va se garder ça pour plus tard, hein, dans la saison. Si jamais il en refait 2-3 comme ça, on pourra se garder un gros titre, la renaissance, tu vois. Mais gardons une cartouche. Donc là, on va dire qu'on attend. Non, mais voilà, ils ont réussi à installer le jeu au sol. Et tant mieux, parce que je pense sincèrement que s'ils n'avaient pas réussi à courir, ça aurait été plus compliqué.
Oui, ça reste Sam Darnold quand même.
Ouais,
voilà, pas...
donc ils gagnent ce match-là. Ils gagnent sur le fait qu'ils arrivent à installer leur jeu au sol. Et leur défense, bah, fait le taf. Mais j'ai envie de dire que cette année, de toute façon, face aux Broncos, je sais pas si...
Bah, du coup, ils étaient là, ils étaient vivants sur le terrain face à l'attaque de Denver.
Ils ont fait le taf, bravo à eux. Non, mais c'est bien de gagner ce genre de match. Hein. On va pas... Bon.
Non mais bon, on surveillera. On s'enthousiasme pour Darnold, quoi. S'il fait ça contre TJ Watt par exemple dans deux semaines.
Oui, ouais, je suis d'accord. Non mais tu sais que là j'étais en train de me dire, les Broncos ont 3 victoires, mais je sais même pas comment ils les ont obtenues, ces 3 victoires.
Ouais, j'avoue. en défendant vraiment le feu, quoi. Attends, je suis en train de les vérifier. Ils ont battu les Texans. Bon. Attends, ils battent les Texans 16-9, ils battent les 49ers 11-10 et les Jaguars 21-17.
Okay.
Là, vraiment grosse explosion offensive, hein, 21-17 contre les Jaguars, ils étaient chauds bouillants.
Oh, putain, je suis en train de reprendre leur scoring toute la saison, mais c'est un des. Oh.
C'est le Wembley en plus, le Broncos
oui.
Et le Jaguars qui gagne.
Oui.
C'est Wembley. Bah, c'est ça la solution, déménager.
Ouais.
Oh. Il faut que les mecs soient en jet lag en fait.
Ouais, non, mais pardon, c'est je regarde leur score sur chaque match là depuis le début de la saison, c'est...
Ah, mais c'est affligeant, hein. Ils marquent 14 points par match, hein, si je dis pas de bêtises, 14,3.
Purée.
C'est affligeant, oui. Hein, 14,3 points, mais bon. Voilà donc pour les Broncos, et donc on le disait pour Sam Darnold, on va attendre un petit peu de voir, parce qu'il y a quand même des chances que ça retombe, hein, et qu'on retombe dans le cycle infernal des quarterbacks du côté de Carolina. D'ailleurs, eux, ça les arrange peut-être pas forcément, hein, de gagner ce match dans la course au quarterback, à la draft et tout ça, hein, parce que comme il paraît qu'il y a du bon monde. Bon, après, personne pourra détrôner Houston, hein, pour le premier choix de la draft.
Ah oh, bah là, ils sont lancés là, c'est...
Ouais. Là, il va vraiment falloir leur passer sur le corps, hein, sur ce coup-là. J'ai déjà lu un article, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Bryce Young, non, celui qui a attendu numéro 1, ou CJ Stroud, je l'ai confondu.
Bah, je crois que les deux sont un peu touche-touche de ce que je
mais parce,
aussi.
Parce qu'en fait, j'ai lu un article de Yahoo qui prenait le nom d'un des deux mecs et qui disait tu vas devoir jouer à Houston, bonne chance à toi. Et tu sais, c'était genre un article pour lui dire qu'il allait vivre l'enfer, quoi, grosso modo. Donc... Ça risque d'être compliqué, mais ça, c'est pareil, c'est une autre histoire. Il y a un article, d'ailleurs, je vous le signale, sur le site, c'est Bryce Young, justement, c'est pour ça que je pensais à lui, qui est le quarterback d'Alabama, mais c'était sur lui, l'article de Yahoo, d'ailleurs, je pense, qui est, si vous voulez un peu mieux apprendre à le connaître, eh bien, c'est sur le site en ce moment. Il y a un très bon article de Jean-Michel Boujard qui nous fait plein, évidemment, d'articles draft et que vous entendez dans le podcast tous les vendredis pour parler des futurs joueurs NFL qui se présentent à la draft. Merci beaucoup, Raphaël.
Eh ben, merci à toi.
On se retrouve très bientôt. L'émission de jeudi, ce sera avec Victor pour parler donc de la preview de la semaine 13. J'étais à l'arrêt, je suis un peu fatigué, je sais pas, j'ai un coup de chaud là. Il y aura de la draft vendredi, samedi rétro. J'ai pas encore choisi, tiens, faut que je me note, j'ai de choisir l'émission rétro. Et puis dimanche, le fauteuil en live. Alors on est un peu suspendu encore, hein, au moment où on enregistre, on connaît pas le résultat de la France en Coupe du Monde, et vu qu'on a peur que ça chevauche le fauteuil et qu'il y ait personne, on verra. Ça se trouve, je vais prendre l'antenne à 16h, comme ça je commencerai en même temps que le match de la France, je commente le match de la France en même temps, et on enchaîne avec le fauteuil, comme ça vous êtes là depuis le début. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, Karumbal, Gilles, Setsuna, Nioniba, Dak Forbest, 43 Nina, Clément, Julien Brossillon, Macnepsi, Valentin Grédy, Chiryu, Princesse Mononoprix et Paul G. Princesse Mononoprix, c'est vraiment mon pseudo préféré des tipeurs. Pourquoi il y en a autant de nouveaux? Parce que je vous signale, si vous ne l'avez pas vu sur le site, qu'on a encore une nouveauté cette semaine sur Tipeee, c'est un calendrier 2023 TD Actu, c'est un calendrier format A4 double face un peu cartonné, les trucs très pratiques qu'on met sur le frigo ou sur le bureau comme ça pour avoir les dates, et dessus il y a les grandes dates, il y a la date du Super Bowl, la date du début des playoffs, la date de la draft NFL et la date du début de la saison prochaine, voilà, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, il est sur notre Tipeee. Pour nous suivre sur Twitter, Facebook et TikTok @TDActu, sur Instagram @TDActu en entier et sur TDActu évidemment.com pour le site et pour toute l'actualité de la NFL. Je retrouve mon générique et voilà. Et on est parti. Merci beaucoup à tous. Merci encore Raphaël. Et à très bientôt, à demain pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.
Et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.